maintenir, 5 ans auparavant, des étendards à croix gammée flottaient encore lorsque les Verts n'ont pas d'ici. Si je rappelle ces événements majeurs liés à ce lieu, ou si me viennent à l'esprit les noms prestigieux des personnalités reçues ici même, c'est parce que, mesdames et messieurs, notre rencontre d'aujourd'hui et la remise de médailles à laquelle va procéder M. Jean-Raphaël Hirsch, président du comité français pour Yad Vashem, compteront certainement, j'en suis convaincu, parmi les moments exceptionnels vécus dans notre hôtel de ville. Après les cérémonies que nous venons de vivre à l'emplacement de l'ancienne synagogue, désormais allée des Justes de Strasbourg, où ont été commémorées les tragédies d'une guerre sans nom, après les prières, le recueillement et l'hommage, nous voici maintenant rassemblés autour d'une famille qui, elle, porte un nom, la famille Guibert, que je suis très heureux d'accueillir ici à notre famille. Je vais laisser à Jean-Raphaël Hirsch le soin de rappeler l'importance de ce titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël. Mais je voudrais dire quelques mots à la famille Guibert. Chère famille, vous représentez ici vos grands-parents et arrière-grands-parents qui ont recueilli, choyé et sauvé la petite Simone Reichner, dont ils ont pris soin comme de leurs propres enfants et qui ont sauvé 3 prisonniers évadés ainsi que les aviateurs alliés. Leur souvenir, celui de Louis et Jeanne Guibert, nous apprend qu'au cours d'une vie, il est possible d'appartenir à différentes familles. Une famille politique, une famille pensée, une classe sociale, un corps de métier, certes, mais il est une famille qui n'est pas recensée et qui transcende, je crois pouvoir le dire ici, toutes les autres, c'est celle du cœur et du courage. Cette famille-là ne se contente pas de compatir au malheur de l'autre ou de trembler. Non, elle agit, elle s'engage, mais surtout elle prend des risques pour elle-même. Elle fait preuve d'un discernement admirable puisqu'elle entre délibérément dans l'illégalité, entre guillemets, pour mieux servir la justice. C'est cette même conscience qui a guidé, ça a été rappelé tout à l'heure, Charles Altorfer, ancien maire de Strasbourg, qui s'était exposé personnellement à des risques majeurs afin de protéger les Juifs et qui a reçu donc le titre de juste parmi les nations, à titre posthume, ici aussi, à l'hôtel de ville de Strasbourg, en mars 2003. En même temps qu'Hélène Schweizer, devenue Rosenberg, après la guerre, elle épouse en effet Émile Rosenberg et se convertit au judaïsme. Diplômée des Beaux-Arts, ses qualités artistiques lui avaient permis de fabriquer de nombreux faux papiers et de sauver ainsi des centaines de Juifs et de résistants. Je voudrais encore citer Pierre Bocquel, archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg de 1967 à 1986, compagnon de résistance d'André Malraux, qui déclara dans son discours de remerciement au cours de la cérémonie d'amitié organisée à son intention à l'initiative de Freddy Raphaël en 1990 au Palais de Lorraine, je le cite, « En me mettant au service de mes amis juifs persécutés, je découvris la noblesse de ce peuple que l'histoire a tant écorché, et je les aidais en rougissant de mes ancêtres, dont ils furent si souvent les victimes, et de mes contemporains qui continuaient de s'acharner contre eux en les livrant à leurs bourreaux. C'est cette famille que Louis et Jeanne Guibert rejoignent aujourd'hui, celle des 34 justes alsaciens, des 3641 justes français et celle des 25 000 personnes reconnues justes parmi les nations à travers le monde par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Cette famille qui va au-delà de l'émotion et de la compassion et qui s'engage au péril de sa propre vie, car en ces temps troublés, chaque geste, chaque main tendue donnait à l'action une dimension humaine considérable, car il s'agissait à chaque fois d'une vie arrachée à la mort et donc d'une génération entière sauvée. Cette famille qui n'a pas attendu la fin de la guerre pour découvrir avec effroi les crimes commis, comme si, avant même qu'il ne l'eût écrit, le poème de Primo Levi si c'est un homme, résonnait déjà à leurs oreilles comme il résonne aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Permettez-moi de vous le relire ici devant vous. C'est Primo Levi qui s'exprime. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et les visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de ses souvenirs, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver, n'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants. Car, mesdames et messieurs, le devoir de mémoire concerne, je l'ai dit, certes le passé, mais il concerne encore plus le présent et l'avenir. Pour éradiquer la barbarie, nous avons tous le devoir de la maintenir dans notre conscience collective comme une menace contre laquelle il faut se battre sans relâche. Je crois que c'est là le sens profond du message de Primo Levi.
Président du comité français pour l'IHL. Monsieur le Président.